Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Huitième épisode.
L'hiver fut rude. La convalescence de Madame Bovary fut longue. Elle restait dans son lit et quotidiennement attendait, avec une sorte d'anxiété, l'infaillible retour d'événements minimes. Monsieur Bournisien venait la voir. Il s'enquérait de sa santé, lui apportait des nouvelles et l'exhortait à la religion dans un petit bavardage câlin qui ne manquait pas d'agrément. La vue seule de sa soutane la réconfortait. Elle acheta des chapelets, elle porta des amulettes. Elle souhaitait avoir dans sa chambre, au chevet de sa couche, un reliquaire enchâssé d'émeraude pour le baiser tous les soirs. Le curé s'émerveillait de ses dispositions, bien que la religion d'Emma, trouvait-il, pût, à force de ferveur, finir par friser l'hérésie et même l'extravagance. Elle se livra à des charités excessives. Elle cousait des habits pour les pauvres, elle envoyait du bois aux femmes en couche, et Charles, un jour, en rentrant, trouva dans la cuisine trois vauriens attablés qui mangeaient un potage. Elle fit revenir à la maison sa petite fille que son mari, durant sa maladie, avait renvoyée chez la nourrice. Elle voulut lui apprendre à lire. Berthe avait beau pleurer, elle ne s'irritait plus. C'était un parti pris de résignation, une indulgence universelle. Du reste, elle enveloppait tout maintenant d'une telle indifférence. Elle avait des paroles si affectueuses et des regards si hautains, des façons si diverses, que l'on ne distinguait plus l'égoïsme de la charité, ni la corruption de la vertu. Elle fit, au commencement du printemps, bouleverser le jardin d'un bout à l'autre, malgré les observations de Bovary. Il fut heureux, cependant, de lui voir enfin manifester une volonté quelconque. Elle en témoigna davantage à mesure qu'elle se rétablissait.
Maintenant que madame semble aller mieux, vous devriez, pour la distraire, la mener au théâtre de Rouen, voir l'illustre ténor Lagardy. Lagardy ne donnera qu'une seule représentation de l'opéra de Donizetti, Lucie de la mer mort.
Cette idée de spectacle germa vite dans la tête de Bovary, car aussitôt il en fit part à sa femme, qui refusa tout d'abord. Mais par extraordinaire, Charles ne céda pas, tant il jugeait cette récréation lui devoir être profitable. Et le lendemain, à 8 heures, ils s'emballèrent dans l'hirondelle. Elle se laissait aller au bercement des mélodies et se sentait vibrer de tout son être, comme si les archets des violons se fussent promenés sur ses nerfs. Une jeune femme s'avança en jetant une bourse à un écuyer vert. Elle resta seule, et alors on entendit une flûte qui faisait comme un murmure de fontaine ou comme des gazouillements d'oiseaux. Lucie entama d'un air brave sa cavatine en sol majeur. Elle se plaignait d'amour. Elle demandait des ailes. Emma, de même, aurait voulu, fuyant la vie, s'envoler dans une étreinte. Tout à coup, Lagardy, dans le rôle d'Edgar, parut. Dès la première scène, il enthousiasma. Il pressait Lucie dans ses bras, il la quittait, il revenait, il semblait désespéré. Emma se penchait pour le voir, égratignant avec ses ongles le velours de sa loge. Elle s'emplissait le cœur de ses lamentations mélodieuses. Elle reconnaissait tous les enivrements et les angoisses dont elle avait manqué mourir. Mais personne sur la terre ne l'avait aimé d'un pareil amour. Il ne pleurait pas comme Edgar le dernier soir au clair de lune lorsqu'il se disait « à demain ».
Pourquoi donc ce seigneur est-il à la persécuter ?
Mais non, c'est son amant.
Pourtant, il jure de se venger sur sa famille, tandis que l'autre, celui qui est venu tout à l'heure, disait « J'aime Lucie et je m'en crois aimée ».
Mais qu'importe, tais-toi.
C'est que j'aime à me rendre compte, tu sais bien.
Mais tais-toi, tais-toi.
Les amoureux parlaient des fleurs de leur tombe, de serments, d'exil, de fatalité, d'espérance. Et quand ils poussèrent l'adieu final, Emma jeta un cri aigu qui se confondit avec la vibration des derniers accords. Lucie s'avançait, une couronne d'oranger dans les cheveux et plus pâle que le satin blanc de sa robe. Emma rêvait au jour de son mariage. Pourquoi n'avait-elle pas, comme celle-là, résisté, supplié ? Elle était joyeuse, au contraire, sans s'apercevoir de l'abîme où elle se précipitait. Ah, si dans la fraîcheur de sa beauté, avant les souillures du mariage et la désillusion de l'adultère, elle avait pu placer sa vie sur quelque grand cœur solide. Alors la vertu, la tendresse, les voluptés et le devoir se confondant, jamais elle ne serait descendue d'une félicité si haute. Mais ce bonheur-là, sans doute, était un mensonge imaginé pour le désespoir de tout désir. Elle connaissait à présent la petitesse des passions que l'art exagérait. S'efforçant donc d'en détourner sa pensée, Emma voulait ne plus voir dans cette reproduction de ses douleurs qu'une fantaisie plastique, bonne à amuser les yeux. Et même elle souriait intérieurement d'une pitié dédaigneuse.
Tiens, ton verre d'orgeat. Ah, j'ai cru ma foi que j'y resterai. Il y a un monde. Devine un peu qui j'ai rencontré. Monsieur Léon.
Léon ?
Lui-même. Il va venir te présenter ses civilités. Non, justement.
Ah, bonjour. Comment ? Vous voilà ? Vous êtes donc à Rouen ?
Oui.
Et depuis quand ?
À partir de ce moment, elle n'écouta plus. Tout passa pour elle dans l'éloignement, comme si les instruments fussent devenus moins sonores et les personnages plus reculés. Elle se rappelait les parties de cartes chez le pharmacien, les tête-à-tête au coin du feu, tout ce pauvre amour si calme et si long, si discret, si tendre, et qu'elle avait oublié cependant. Pourquoi revenait-il ? Quelle combinaison d'aventures le replaçait dans sa vie ?
Est-ce que cela vous amuse ?
Oh mon Dieu, non, pas beaucoup.
Peut-être pourrions-nous sortir, aller prendre une glace quelque part ?
Oh, mais pas encore, restons. Lucie a les cheveux dénoués. Cela promet d'être tragique.
Elle crie trop fort.
Oui, oui, peut-être un peu.
Il fait une chaleur.
Insupportable, c'est vrai.
Es-tu gênée ?
Oui, j'étouffe. Partons.
Ils allèrent tous les trois s'asseoir sur le port, en plein air. Il fut d'abord question de sa maladie, bien qu'Emma interrompit Charles de temps à autre, par crainte, disait-elle, d'ennuyer M. Léon. Et celui-ci leur raconta qu'il venait à Rouen passer 2 ans dans une forte étude afin de se rompre aux affaires qui étaient différentes en Normandie de celles que l'on traitait à Paris. Puis il s'informa de Berthe, de la famille Homais, et comme il n'avait en présence du mari rien de plus à se dire, bientôt la conversation s'arrêta.
Je suis content de vous avoir croisé ce soir. Je vais souvent à l'opéra. J'y ai vu Tamburini, Rubini, Persiani, Grisi. Et à côté d'eux, Lagardy, malgré ses grands éclats, ne vaut pas grand-chose.
Pourtant, on prétend qu'au dernier acte, il est admirable tout à fait. Je regrette d'être parti avant la fin, car ça commençait à m'amuser.
Il donne une autre représentation demain soir.
Malheureusement, nous partons demain. À moins que tu ne veuilles rester seul, mon petit chat.
Il est vrai que Lagardy est superbe au dernier acte.
Je reviendrai dimanche. Voyons, décide-toi. Tu as tort si tu sens le moins du monde que cela te fera du bien.
C'est que... je ne sais pas trop.
Tu réfléchiras. La nuit porte conseil.
En quittant monsieur et madame Bovary, Léon, de loin, les suivit dans la rue. Puis les ayant vus s'arrêter à la Croix-Rouge, il tourna les talons et passa toute la nuit à méditer un plan.
Entrez.
Léon.
Comment m'avez-vous trouvé ?
Je ne vous ai pas dit où nous étions descendus.
Oh, je l'ai deviné.
Comment ?
L'instinct. J'ai eu un pressentiment. Bon, d'accord, j'ai passé la matinée à vous chercher dans tous les hôtels de la ville. Vous vous êtes donc décidé à rester ?
Oui. Et j'ai eu tort. Il ne faut pas s'accoutumer à des plaisirs impraticables quand on a autour de soi 1000 exigences.
Oh, je m'imagine, ouais.
Eh non, car vous n'êtes pas une femme, vous.
Mais les hommes aussi avaient leur chagrin. Et la conversation s'engagea par quelques réflexions philosophiques. Emma s'étendit beaucoup sur la misère des affections terrestres et l'éternel isolement où le cœur reste enseveli. Pour se faire valoir, ou par une imitation naïve de cette mélancolie qui provoquait la sienne, le jeune homme déclara s'être ennuyé prodigieusement tout le temps de ses études. La procédure l'irritait, d'autres vocations l'attiraient, et sa mère ne cessait, dans chaque lettre, de le tourmenter, car il précisait de plus en plus les motifs de leur douleur, chacun, à mesure qu'il parlait, s'exaltant un peu dans cette confidence progressive. Mais il s'arrêtait quelquefois devant l'exposition complète de leur idée et cherchait alors à imaginer une phrase qui pût la traduire cependant. Elle ne confessa point sa passion pour un autre. Il ne dit pas qu'il l'avait oubliée.
Mais pardon, je vous ennuie avec mes éternelles plaintes.
Non, jamais. Jamais.
Si vous saviez tout ce que j'avais rêvé.
Et moi donc ? J'ai bien souffert. Souvent, je me traînais le long des quais sans pouvoir bannir l'obsession qui me poursuivait. Il y a sur le boulevard, chez un marchand d'estampes, une gravure italienne qui représente une muse. Elle est drapée d'une tunique et elle regarde la lune, avec des myosotis sur sa chevelure dénouée. Quelque chose incessamment me poussait là. J'y suis resté des heures entières. Elle vous ressemblait un peu. Souvent, je vous écrivais des lettres qu'ensuite je déchirais. Je m'imaginais quelquefois qu'un hasard vous amènerait. J'ai cru vous reconnaître au coin des rues. Et je courais après tous les fiacres où flottait à la portière un châle pareil au vôtre.
Pourquoi donc ?
Pourquoi ? Parce que je vous ai bien aimé.
Je m'en étais toujours douté. Pauvre ami.
Vous étiez dans ce temps-là pour moi je ne sais quelle force incompréhensible qui captivait ma vie. Eh bien...
Eh bien ? D'où vient que personne jusqu'à présent ne m'a jamais exprimé des sentiments pareils ?
Si seulement par une grâce du hasard nous nous étions rencontrés plus tôt, imaginez quel bonheur nous aurions pu avoir.
J'y ai songé quelquefois.
Quel rêve. Qui nous empêche donc de recommencer?
Non, mon ami. Je suis trop vieille. Vous êtes trop jeune. Oubliez-moi. D'autres vous aimeront. Vous les aimerez.
Pas comme vous.
Enfant que vous êtes. Allons. Soyons sages. Je le veux.
Ah. Pardon.
Qu'il est tard, mon Dieu. J'en ai même oublié le spectacle. Ce pauvre Bovary qui m'avait laissé tout exprès. Et maintenant, il est trop tard. Et demain, je serai partie.
Vrai ?
Oui.
Il faut pourtant que je vous voie encore. Faites par pitié que je vous revoie une fois. Une seule.
Eh bien... Oh, pas ici.
Où vous voudrez.
Voulez-vous... Demain à 11h dans la cathédrale.
J'y serai.
Vous êtes fou.
À demain.
Emma, le soir, écrivit une interminable lettre où elle se dégageait du rendez-vous. Tout maintenant était fini et ils ne devaient plus, pour leur bonheur, se rencontrer. Mais quand la lettre fut close, comme elle ne savait pas l'adresse de Léon, elle se trouva fort embarrassée.
Je la lui donnerai demain. Il viendra.
Monsieur, sans doute, n'est pas d'ici. Monsieur désire voir les curiosités de l'église.
Non.
Léon, à pas sérieux, marchait auprès des murs. Jamais la vie ne lui avait paru si bonne. Elle allait venir tout à l'heure, charmante, agitée, épiant derrière elle les regards qui la suivaient, et avec sa robe à volant, son lorgnon d'or, ses bottines minces, dans toutes sortes d'élégances dont il n'avait pas goûté, et dans l'ineffable séduction de la vertu qui succombe. Un froufrou de soie sur les dalles, la bordure d'un chapeau, un camail noir, c'était elle.
Donne-moi.
Tenez, lisez. Oh non, je vais prier d'abord.
Le jeune homme fut irrité de cette fantaisie bigote. Puis il éprouva pourtant un certain charme à la voir au milieu du rendez-vous, ainsi perdue dans les oraisons comme une marquise andalouse. Puis il ne tarda pas à s'ennuyer car elle n'en finissait pas.
Madame, sans doute, n'est pas ici. Madame désire voir les curiosités de l'église.
Non.
Pourquoi pas?
Venez, madame, suivez-moi. Il est important de procéder dans l'ordre. Tout d'abord, regardez ici, sur le sol. Et ceci est la circonférence de la belle cloche d'Amboise. Elle pesait 40 000 livres, il n'y avait pas sa pareille dans toute l'Europe. L'ouvrier qui l'a fondue en est mort de joie.
Partons.
Cette simple dalle couvre Pierre de Brézé, seigneur de la Varenne et de Brissac, grand maréchal de Poitou et gouverneur de Normandie, mort à la bataille de Montlhéry le 16 juillet 1465.
Bon, tenez, merci. Allons-y.
Où allons-nous-t-on ?
Monsieur !
Quoi ?
Sortez du moins par le portail du Nord, pour voir la résurrection, le jugement dernier, le paradis, le roi David, le réprouvé dans les flammes de l'enfer.
Imbécile.
Hé, hey, gamin, va me chercher un fiacre.
Ah, Léon, vraiment, je ne sais si je dois... C'est très inconvenant, savez-vous.
En quoi ? Cela se fait à Paris.
Et cette parole, comme un irrésistible argument, la détermina.
Où monsieur va-t-il ?
Où vous voudrez.
Et la lourde machine se mit en route. Elle descendit la rue du Grand Pont, traversa la place des Arts, le quai Napoléon, le Pont Neuf, et s'arrêta court devant la statue de Pierre Corneille. Elle repartit, et se laissant, dès le carrefour de Lafayette, emportée par la descente, elle entra au grand galop dans la gare du chemin de fer.
Non, tout droit.
Le fiacre sortit des grilles, et bientôt, arrivé sur le cours, trotta doucement au milieu des grands ormes. Le cocher s'essuya le front, mit son chapeau de cuir entre ses jambes et poussa la voiture en dehors des contre-allées, au bord de l'eau, près du gazon. Elle alla le long de la rivière, sur le chemin de halage pavé de cailloux secs, et longtemps, du côté d'Oissel, au-delà des îles. Mais tout à coup, elle s'élança d'un bond à travers quatre mares, Sotteville, la Grande Chaussée, la rue d'Elbeuf, et fit sa troisième halte devant le Jardin des Plantes. Et alors, sans parti pris ni direction, au hasard, elle vagabonda. On la vit à Saint-Paul, à Lescure, au Mont-Gargan, à la Rouge-Mare et place du Gaillard-Bois, rue Maladrerie, rue Dinandry, devant Saint-Romain, Saint-Vivien, Saint-Maclou, Saint-Nicaise, devant la douane, à la base vieille tour, aux trois pipes et au cimetière monumental. De temps à autre, le cocher sur son siège jetait au cabaret des regards désespérés. Il ne comprenait pas quelle fureur de la locomotion poussait ces individus à ne vouloir point s'arrêter. Et sur le port, au milieu des camions et des barriques, et dans les rues, au coin des bornes, les bourgeois ouvraient de grands yeux ébahis devant cette chose si extraordinaire en province, une voiture à store tendu et qui apparaissait ainsi, continuellement, plus close qu'un tombeau et ballottée comme un navire. Une fois au milieu du jour en pleine campagne, une main nue passa sous les petits rideaux de toile jaune et jeta des déchirures de papier qui se dispersèrent au vent et s'abattirent plus loin comme des papillons blancs sur un champ de trèfles rouges tout en fleurs. Puis, vers 6 heures, la voiture s'arrêta dans une ruelle et une femme en descendit qui marchait le voile baissé sans détourner la tête.
Madame, madame, vous devez aller chez monsieur Homais, c'est pour quelque chose d'important.
Bien.
T'as dit d'aller le chercher dans le cafard là-haut.
Mais qu'est-ce donc,
c'est-il gars. On fait des confitures, elles allaient déborder à cause du bouillon trop fort et je commande une autre bassine. Alors lui, par paresse, a été prendre suspendu à son clou dans mon laboratoire la clé du Capharnaüm.
Oh
oui. Avoir été prendre une bassine de réserve, une bassine à couvercle. Mais que diable. Il ne faut pas employer à des usages presque domestiques ce qui est destiné pour le pharmaceutique.
Vous aviez pourtant demandé...
Tout à l'heure, sais-tu à quoi tu t'exposais? N'as-tu rien vu dans le coin à gauche sur la troisième tablette? Parle, réponds, articule quelque chose.
Je ne sais pas.
Ah, tu ne sais pas. Eh bien, je sais, moi. Tu as vu une bouteille en verre bleu cachetée avec de la cire jaune qui contient une poudre blanche sur laquelle même j'avais écrit « dangereux ». Et sais-tu ce qu'il y avait dedans?
Non.
De l'arsenic. Et tu vas toucher à cela, prendre une bassine qui est à côté.
À côté de l'arsenic? Mais tu pouvais nous empoisonner tous.
Ou bien empoisonner un malade. Je commence à terriblement me repentir de m'être chargé de ta personne. Tu n'as nulle aptitude pour les sciences.
Mais enfin, monsieur, qu'avez-vous à me dire?
C'est vrai, madame. Votre beau-père est mort.
En effet... Le sieur Bovary venait de décéder l'avant-veille, tout à coup, d'une attaque d'apoplexie, au sortir de table. Et, par excès de précaution pour la sensibilité d'Emma, Charles avait prié monsieur Homais de lui apprendre avec ménagement cette horrible nouvelle. Il avait médité sa phrase, il l'avait arrondie, polie, rythmée. C'était un chef-d'œuvre de prudence et de transition, de tournure fine et de délicatesse, mais la colère avait emporté la rhétorique.
Ma chère amie.
Oui, je sais, je sais.
J'aurais voulu le revoir encore.
Quel âge avait-il, ton père?
58 ans.
Hein?
Tu t'es bien amusé hier?
Oui.
Madame Bovary, de Gustave Flaubert. Adaptation, Pauline Timonier. 8e épisode. Avec Pascal Rénéric, Aurélie Nusillard, Philippe Bautier, Cyril Descours, Hervé Pierre, Étienne Launay, Alexis Rangard, Sylvie Huguel, Yvan Cory, Pauline Ziadé, Peggy Martineau. Musique originale et piano, Mathieu Lambollet, avec le quatuor Hanson et Thomas Tantina à la contrebasse. Bruitage, Benoît Fèvre, Patrick Martinache. Conseillère littéraire, Catel Guillou. Prise de son, montage, mixage, Claude Nior, Manuel Couturier, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Yaël Mandelbaum. Réalisation, Laure Egoroff.